Père Seigneur, dans le nom de Jésus aussi, je te prie pour la réunion, Seigneur, ce matin. Ce qu'on veut entendre, Seigneur, ce qu'on veut voir, c'est des versets, des passages de ta parole qui vont parler à notre cœur, qui vont être gravés dans notre esprit, dans notre cœur, qu'on puisse les garder comme des promesses qui sont à nous et qu'on puisse saisir toutes ces promesses-là, qu'on puisse sortir d'ici rempli de nouvelles choses, même si c'est des choses qu'on sait déjà, mais des richesses qu'on sait accaparé, qu'on saisit, qu'on garde, qu'on ne laissera pas l'ennemi nous voler. Je demande, Seigneur, ce matin, de nous équiper, de nous renouveler dans tout l'équipement pour qu'on puisse sortir d'ici, rempli, revêtu de ta puissance, pour qu'on voit ta gloire dans notre vie. Je te remercie de ce que tu vas faire à travers ta parole, dans le nom de Jésus.
Amen,
Amen Seigneur. Alléluia! Comme je disais tantôt, c'est toujours une joie qu'on est là ensemble. On a déjà une joie quand on rentre dans la présence du Seigneur. Quand on sort d'ici, notre cœur est encore plus rempli de sa joie, de sa paix, mais aussi de sa puissance, parce que le Seigneur fait une œuvre au milieu de nous. Chaque semaine, on voit sa main agir. Chaque semaine, le Seigneur travaille, son Saint-Esprit travaille par la parole, puis là, il nous change notre caractère. Puis dans la semaine, on vit des affaires, puis on comprend pas toujours pourquoi qu'on les vit. Mais le Seigneur, ça sert de ça, de ces situations-là. Des fois, c'est des situations difficiles parce qu'il veut nous changer. Quand on voit dans la parole le passage qui dit qu'il fait chauffer l'or pour faire sortir tout le méchant, qui est tout ce qui n'a pas rapport à l'or, parce qu'il y a d'autres sortes de matières dans l'or qui fait qu'il n'est pas pur, mais plus que tu chauffes, plus que ça fond, plus que le méchant sort, puis il reste juste de l'or de plus en plus pur. Ben notre vie, c'est la même chose. Le Seigneur fait chauffer notre cœur. Fait chauffer notre vie. Il se passe toutes sortes d'affaires dans la semaine, des combats, des luttes, des problèmes, des chicanes, peu importe ce qu'on vit dans notre foyer ou que ce soit avec les gens du dehors. Puis le Seigneur se sert de ça pour chauffer. Il veut nous changer. Il veut pas qu'on reste comme qu'on est. Il veut pas qu'on reste à l'état brut. Il veut qu'on devienne pur. Comme Jésus, être capable d'agir, de réagir, puis de penser, puis de marcher dans la puissance de Dieu, comme Jésus. Tiens, on mène à cela.
Amen.
Dieu veut nous amener comme ça. Puis, qu'est-ce qui se pense déjà arriver? Bon, moi, je ne suis pas encore arrivé à cette position-là, mais je vise à le devenir. Puis, pour que je devienne comme ça, faut que ça chauffe encore dans ma vie. Puis, merci Seigneur pour toutes les épreuves, tous les combats, toutes les luttes, toutes les difficultés qu'on vit. Parce que c'est quand que ça chauffe que Dieu travaille. Si on sera tous bien paisibles, bien tranquilles chez nous, il se passera rien. Il n'y a rien qui change non plus. Tout reste pareil. Il y a comme une routine qui s'installe. On s'endort, puis on ronfle profondément. Mais le Seigneur veut nous changer, puis il sert à tout ce qui se passe pour nous changer. Aujourd'hui, on continue dans l'histoire de ce qu'on a reçu comme dépôt quand on s'est converti à Jésus. Puis en même temps, dans le dépôt, il faut comprendre qu'on n'a pas tout reçu ce qui fait partie des choses de Dieu en partant. Mais il y a d'autres choses qu'on reçoit par la suite. Puis que notre dépôt, autrement dit, grossit. Parce que Dieu déverse des choses, donne des capacités, donne des dons additionnels. À partir que tu t'es converti, il t'a changé, il t'a donné des choses en partant, il t'a changé, mais plus que ça va, plus qu'il t'équipe. Il te donne encore davantage, fait que ton sac, que tu chauffes tout ce qui fait partie de la puissance de Dieu, des dons de Dieu, des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu, il grossit. Puis là, tu marches avec ton dépôt. Puis là, Paul, il est en train d'avertir à Timothée, prends garde au dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit. Fais attention à ça, que ce que tu as reçu. Il y a des choses précieuses là-dedans, puis tu dois veiller à cela pour en prendre soin, puis de les utiliser. Parce qu'on peut faire comme celui qui avait reçu un talent, qui est allé l'enterrer, puis là, il ne bougeait plus. Puis là, dans ces messages-là que j'apporte sur différents sujets qui font partie du dépôt, c'est pour nous stimuler à ce qu'on se réveille spirituellement, puis qu'on marche dans tout ce que Dieu nous a donné, puis qu'on puisse arriver à un moment donné et dire, ça suffit. L'ennemi va arrêter de nous voler ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné des choses, des promesses, sa puissance, des dons. Il nous a donné sa parole, il nous a donné toutes sortes de choses. Puis là, il faut mettre un terme à cela. Il faut dire, Seigneur, on veut se réveiller. Ce qu'on va voir ce matin, une des parties, C'est au niveau des dons spirituels, la manifestation des dons ou de la puissance de Dieu. Ça fait partie de la vie du croyant, ça, de pouvoir expérimenter, de vivre des actions surnaturelles de la puissance de Dieu dans sa vie. C'est pas quelque chose de nouveau, ça. Quand Jésus est venu sur la terre, là, puis que son esprit était répandu après à la Pentecôte, puis il y a eu des manifestations surnaturelles, c'était pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Moïse, hein, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il a frappé l'eau. Dieu, il a dit, frappe l'eau. Il frappe l'eau. Un vent impétueux. L'eau s'est retirée, puis ça a fait un mur chaque bord. Puis ça, le vent qui s'est produit, ça a fait sécher le fond de la rivière, puis le peuple a passé à sec. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça se manifestait, la puissance de Dieu, dans l'Ancien Testament. Ça, Moïse, là, je vous donne un exemple. Mais si on y aurait fouillé là-dedans, là, les dix plaies d'Égypte, là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Après ça, dans d'autres moments, le peuple avait soif. Il a frappé la roche, l'eau a sorti de la roche. Le peuple a été abreuvé de l'eau qui a sorti d'un rocher. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le peuple se plaignait, il n'avait rien à manger. Mais il dit, demain, ils allaient en avoir de la viande à manger. Il y a eu un vent qui s'est passé. Le lendemain matin, il y avait ça d'épais de caille. Des cailles, je ne sais pas si c'est des petits oiseaux, ça ressemble à des pigeons ou un peu plus gros. Ils n'avaient ça d'épais, le monde sortait, puis le monde, il avait tellement à faim. En tout cas, je ne veux pas peser sur ce qui s'est passé, mais la puissance de Dieu, des signes de la présence de Dieu, des signes des miracles. Il y en a plein de personnages. Élie a frappé l'eau avec son manteau, puis l'eau s'est séparée aussi. Élisée, la même chose. Il y a eu de la multiplication de l'huile dans le pot. Hein? Puis elle remplissait d'autres vases avec un seul vase d'huile. Elle remplissait d'autres vases. Puis là, les vases se remplissaient. Quand que le dernier vase qu'elle avait accumulé était rempli, l'huile arrêtait de couler. C'est la puissance de Dieu. Ça existait. Dans Élisée, la même chose. Tu regardes les faits que Élie a vécu, puis les faits que Élisée a vécu. Élisée a vécu en double des miracles qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis il avait demandé une double portion de son esprit, puis il avait une double de quantité de miracles qu'il a vécu dans sa vie. Puis même des résurrections, ça s'est vu dans l'Ancien Testament. Des guérisons. Naaman le Syrien, il a dit, saute dans la rivière 7 fois, puis tu vas être guéri de ta lèpre. L'autre, il dit, il n'y en a pas de fleuve dans le pays où je viens, pourquoi j'irais me garocher dans le Jourdain? Il doutait, il contestait, mais son serviteur, il a dit, il t'a-tu demandé de quoi de difficile? Fallait. Il a sauté dans la rivière 7 fois, dans le Jourdain, puis il a été guéri de sa lèpre. Dieu a accompagné ses serviteurs de signes, de prodiges, de miracles, depuis le commencement. La puissance de Dieu s'est révélée de toutes les façons. Daniel, il y en a qui ont des... Daniel, il expliquait des rêves. Puis même, il n'y a même pas besoin que tu lui dises c'était quoi le rêve que tu as vécu. Il avait qu'à prier Dieu. Puis Dieu, il révélait le rêve, puis il donnait l'explication. Même s'il n'avait pas dit c'était quoi le rêve. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas inclus comme ça les prophètes, comme tous les prophètes qu'on voit dans la parole de Dieu. Il y avait des paroles révélées, des choses qui étaient pour venir. Comme des promesses d'un Messie ou des situations dans la guerre. Là, Israël, il se faisait cerner par l'ennemi. Puis là, ça prenait une solution pour s'en sortir. Puis Dieu donnait aux prophètes les paroles que le roi adverse prononçait. Dieu donnait à son prophète pour qu'il révèle ses plans. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais dans ce temps-là, c'était réservé jusqu'à une certaine quantité de personnes. C'était pas tout le monde du peuple qui vivait la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé de spécial à partir de Jésus? Quoi de spécial qui s'est passé à partir de Jésus? Il y a eu un accomplissement d'une promesse qui était dans l'Ancien Testament, qu'un prophète, le prophète Joël, il a prophétisé une chose, puis cette chose-là a pu s'accomplir qu'après la venue de Jésus. C'est le passage qu'on va aller voir dans Actes 2,16 qui nous dit, là c'est tout de suite après la Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit de Dieu, quand la puissance de Dieu est tombée sur les premiers chrétiens qui étaient rassemblés dans la chambre haute, puis ça priait, puis ça l'intercédait, ils voulaient la puissance, le Saint-Esprit est tombé, puis après ça, Pierre, dans ses explications, il explique ça aux gens qui ont vu la puissance de Dieu est en action. Il lui a dit, mais c'est ici ce que dit, était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais là, il dit, ce que tu vois, là, l'effusion de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui se sont rassemblées auprès des disciples, là, au bruit que ça l'avait fait. Eux autres parlant en langue, ils prophétisaient, ils louaient le Seigneur. Il y avait de l'air d'une gang de gossous. Parce que c'est ça qui sont les commentaires de ceux. Ils ont de l'air, ils sont pleins de vin doux. Tu sais. Quand tu regardes un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, il y a de l'air d'un gossous. Puis là, tous les gens sont arrivés, ils se demandaient c'est quoi cette affaire-là. Puis Pierre lui dit, c'est l'accomplissement de la promesse que Joël a prophétisée. Dieu a dit que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, il y avait juste les serviteurs de Dieu choisis spécialement pour des missions spéciales qui avaient l'onction, la puissance, les dons, les signes, des miracles qui se produisaient dans leur vie. Maintenant, dans le Nouveau Testament, sur les serviteurs, les servantes, les jeunes gens, les vieillards, tout le monde va pouvoir expérimenter. Tous ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit peuvent expérimenter des miracles. La puissance de Dieu. Des signes, des prodiges, des choses étonnantes, des choses renversantes, des choses que, quand tu regardes ça, la bouche te tombe à terre. Là, tu dis, Dieu, il est vraiment au milieu d'eux. Ça a commencé quand? Ça a commencé à la Pentecôte. Là, 2000 ans, ça dit qu'on était déjà commencé les derniers temps. À partir de la Pentecôte, parce que ça disait, d'un dernier temps, je répondrai. C'est déjà commencé, là, 2000 ans. On est encore dans cette ère-là. L'ère de l'effusion du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, de baptiser les gens du Saint-Esprit, puis la présence de Dieu peut se manifester à travers chacun de ses serviteurs ou de ses servantes. Y a-t-il quelqu'un qui se sent exclu de tout là ce matin? Vous êtes tous des serviteurs et des servantes qui avez cru au message de Pierre. Puis vous pouvez tous, tout le monde ici, sans exception, expérimenter la puissance de Dieu et voir des signes, des prodiges, des miracles, des songes, des visions, des prophéties, du parlant en langue, les mettez-en, tous les dons, tout ce qui est à notre disposition, c'est des promesses pour chacun de nous.
Amen.
Gloire à Dieu. Mais comment ça a commencé, ça? Parce que je veux qu'on comprenne vraiment que c'est biblique, ça fait partie de la Bible, puis c'est pour nous. Ça a commencé dans Actes 1-4, quand Jésus a dit une promesse. Moi, je pense que quand Jésus promet quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Puis Jésus, il ne te promet pas quelque chose pour te faire le contraire. Il n'y a pas juste le vouloir, il a le pouvoir de le faire. Dieu peut faire tout ce qu'il nous a promis. Il n'a pas le bras trop court pour agir. Quand il promet de quoi, il est capable de le faire. Puis, qu'est-ce qu'il nous a dit comme promesse? Jésus, il était mort, il était ressuscité. Puis là, il apparaissait à ses disciples. Puis là, une fois qu'il était apparu, il nous a expliqué ça. Comme il se trouvait avec eux, il y a une recommandation qu'il disait à ses disciples. Tout le monde le savait qu'il fallait qu'il allait évangéliser. Mais il y a une chose qu'il lui a recommandée avant de partir. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Où est-ce qu'on voit ça, que le Père avait promis quelque chose? C'est dans la promesse de Joël. C'était une promesse que le Père a promis à travers du prophète Joël. Puis que dans les derniers jours, car une effusion de son esprit, Jésus dit là, je fais une dernière recommandation, là. Attendez d'avoir reçu la promesse du Père. Partez pas évangéliser sans être revêtu de cette promesse-là, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je vous ai dit, leur dit-il, je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean y a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourtant, c'est à tous des gens sauvés, c'est à des gens qui connaissaient le Saint-Esprit, c'est à des gens que le nom était déjà inscrit dans le livre de vie, c'est à des gens qui marchaient déjà par l'Esprit pour faire chasser les démons, puis tout ça. Mais il y a besoin de quelque chose quand Jésus était pour partir. Il y en a besoin de cette puissance-là qu'elle vienne sur eux. Baptiser, le mot baptiser veut dire enseveli, revêtu. Fait que tu peux avoir plus que juste reçu le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu peux en être rempli ou tu peux en être revêtu. C'est à peu près la même chose qu'un exemple que je me sers quand tu prends un verre d'eau qui est vide, là, un verre. Il est vide. Comme tu peux mettre de l'eau dedans, tu peux le remplir d'eau, ou tu prends le verre et le mettre dans une chaudière d'eau, il est plus que rempli, il en est revêtu. Quand tu es revêtu de l'eau, tu es aussi rempli de l'eau. Mais on est des verres devant Dieu, on est des vases d'argile, on est des coupes, on est là pour transporter la présence et la puissance de Dieu. C'est là qu'on vient des vases utiles. Sans l'Esprit de Dieu, on est complètement inutile. Il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux même pas entrer dans le royaume. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Fait que là, il lui dit au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Comment Pierre y a-t-il retransmis cette promesse-là? Parce que là, il savait la promesse de Joël, il savait qu'est-ce que Jésus venait de dire, il fallait l'attendre. Quand ils l'ont reçu, là, il a été rempli de la puissance de Dieu, les signes se manifestaient, il sort sur le perron, il était dans la chambre haute, il sort sur le perron, les 3000 personnes qui s'étaient assemblées au bruit qui se faisait, il a commencé à leur parler. Comment, qu'est-ce que Pierre a annoncé aux gens qui étaient là? Il y a une chose que ces gens-là avaient besoin d'entendre. Deux choses. Premièrement, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'on a notre vie est dans le péché, qu'on a besoin de Jésus qui est à mort sur la croix, pardonner notre péché. Faut que l'histoire de nos péchés soit réglée. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, dans Actes 2:37, qu'on va aller lire ça. Après avoir entendu ce discours, les gens, là, ils étaient touchés. Ils eurent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Là, ils venaient de voir la puissance de Dieu. Ils entendaient le discours de Pierre qui lui disait, « Vous avez crucifié le Seigneur de gloire, puis ainsi de suite, c'est de votre faute, puis vous êtes dans le péché, tu arrêtes de lui dire les quatre vérités, là, comme qu'on dirait. » Puis là, ils ont tout le cœur touché, puis là, ils se demandent quoi faire. Pierre leur dit, autrement dit, c'est simple que vous avez à faire. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et, la deuxième chose, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui? Repentez-vous pour mettre votre vie en règle avec Dieu, puis après ça, reçois le Saint-Esprit, que c'est une promesse qui est pour toi, pour tes enfants, puis pour tous ceux de ta famille, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Toutes les appelés peuvent recevoir le Saint-Esprit. C'est pas une chose qui était juste pour les 12 apôtres. Les 12 apôtres venaient de le recevoir, d'être revêtus de la puissance, mais c'est une promesse qui devait être annoncée à tout le monde. Pour chacun de nous. Suite à ça, là, à l'effusion, il se passe des signes, il se passe des miracles. Et Joël, il dit des signes sur la terre, des signes dans le ciel, des miracles, des prodiges, des prophéties, des visions, des songes, tous les dons ils se manifestent. Quels sont les dons donnés à l'Église suite à l'effusion? Parce que là, on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a une description. Ça, c'est juste comme une description générale, là. Tous les dons, ça peut varier, là, parce que, je vais vous les nommer. Dans 1 Corinthiens 12, 8, ça dit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre, la foi, par le même esprit. Un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Un autre, le don des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, les diversités des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le Saint-Esprit a rassemblé des gens pour faire partie de son Église. Le Saint-Esprit est entré dans chacun de ses serviteurs et servantes. Il veut les équiper. Il veut nous équiper de cette puissance-là qui va faire que quand on va marcher dans cette vie, on va être rempli, revêtu et manifester ces dons-là. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça à travers de nous. Les dons du Saint-Esprit, c'est pas l'effort humain pour reproduire, qui se reproduit par l'humain. Parce que des fois, là, ça a déjà arrivé que des églises, ils se forçaient à apprendre à parler en langue, puis ils apprenaient des nouvelles langues par cœur, là, dans leur, comme des cours de langue, pour essayer d'apprendre de nouvelles langues, pour essayer de parler en langue, puis là, comme si tu veux forger le don des langues dans l'église en l'apprenant. Ça n'a pas rapport. C'est pas par notre force humaine qu'on peut comme arriver pour une personne. Là, je vais me forcer, là, puis cette personne-là, quand je vais y mettre mes mains dessus, elle va être guérie. Ça n'a pas rapport avec notre humanité, là. Notre vase peut pas. On n'a rien en nous qui peut guérir. C'est pas, on l'a en nous, mais c'est pas en nous. C'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons. C'est lui, le Saint-Esprit, qui donne les guérisons, qui donne les paroles qu'on a besoin d'entendre pour édifier le peuple, qui donne une révélation de quelque chose qui délivre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers de chacun comme il le veut. C'est lui qui décide tout. Dans Actes 2, 4, juste un exemple, là, il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, pas selon ce que le cours de langue leur a donné d'apprendre, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. » Quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis t'en es baptisé, là, puis là, le don que Dieu, s'il veut te donner un don de t'exprimer en langue, c'est comme si ça vient tout seul. En dedans de toi, t'es poussé à parler en d'autres langues. Puis là, ça sort. C'est pas toi qui as décidé ça. Ça vient du Saint-Esprit qui fait sortir ça. Puis là, tu te mets à prier en langue ou à louer en langue, puis tu t'adresses à Dieu direct. Puis c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pas toi, il faut qu'il te force. Quand il dit « Ils furent tous remplis », puis c'est là que ça s'est mis à se manifester. Fait que, avant qu'il soit rempli, il avait le Saint-Esprit, mais ça se manifestait pas. Il fallait qu'il en soit rempli, puis là, ça commence à sortir tout seul. La puissance de Dieu est à l'œuvre quand l'Esprit de Dieu remplit le serviteur. Tu regardes plein de passages dans les Actes, Paul rempli du Saint-Esprit, il a parlé, puis là, il se passe un miracle. Il faut que tu sois rempli, il faut que tu sois dans la présence de Dieu avant ça marche. Essaye pas d'arriver là. Ça fait un mois que tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu n'es même plus rempli du Saint-Esprit, tu es sec dans ta vie. Là. Puis là, tu arrives dans ta chair à essayer de faire quelque chose, ça marche pas. Il faut qu'on soit dedans, puis là, tu peux exercer que laisser agir le Saint-Esprit à travers toi et le laisser parler, le laisser se manifester. Là, le Saint-Esprit va le faire, puis la gloire de Dieu va être là. Amen. Il y a deux buts de ça, de tous ces dons-là qu'on reçoit. Il y a deux buts. Premièrement, pour être un témoin, c'est ça que Jésus a dit à ses apôtres, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour avoir une évangélisation efficace, il faut que tu sois rempli et revêtu de la puissance de l'Esprit. Si tu y vas dans ta chair, pensez pas qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire ou de puissant. Mais par le Saint-Esprit, il se passe des signes, des prodiges, des miracles, puis les gens voient la puissance de Dieu. Comme un exemple, dans Marc 16, 15, il dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Puis voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. » Par la puissance de Dieu. Le Seigneur, puis c'est dans le même texte, le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel, il cessa à la droite de Dieu, et il alla prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les disciples ne sont pas partis évangéliser tout seuls. La puissance de Dieu était avec eux autres, Jésus était avec eux autres, puis Jésus manifestait les signes pour que le témoignage soit amplifié. Ça, c'est le premier but pourquoi on cherche la puissance, pour être un témoin, puis que le Saint-Esprit puisse nous utiliser dans ce monde pour qu'il se passe, que la présence de Dieu se manifeste, puis qu'il y ait des guérisons, des impositions des mains, puis les malades soient guéris, puis ainsi de suite. Puis chasser des démons, c'est ça que ça dit aussi. Il y a plein de monde qui vit des combats avec des esprits, même des chrétiens. Puis on a encore besoin de voir la main du Saint-Esprit, de laisser faire le Saint-Esprit. Il veut faire un mélange dans nos vies, il veut délivrer les gens du dehors. Il est venu pour délivrer ce que le diable est en train de construire. Le diable, il lit, Jésus brise les chaînes. Le diable rend malade, Jésus vient me guérir. Tout le temps, Jésus passait dans une ville, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Il n'y a rien, il n'y a aucune maladie qui résiste à la puissance de Dieu. C'est Dieu qui... Il y a une réflexion que j'ai eue cette semaine, là. C'est un verset qui dit, il tient l'univers dans le creux de sa main. Ça ne remplit même pas la main. C'est rien que dans le creux. Il est loin d'avoir les mains pleines avec tout cet univers-là qu'on voit. Ça a de l'air infini à nos yeux, autant dans la grandeur que c'est, autant dans le microscope, comment est-ce que c'est petit. Ça a de l'air infini. Lui, il tient tout ça dans le creux. C'est juste dans le fond. C'est rien pour lui, l'univers. Fait que nos petites maladies, nos petits problèmes financiers, nos petits problèmes familiales, ou nos petits problèmes, peu importe le problème, là, c'est insignifiant pour lui, puis il rit de ça, lui, Seigneur. Il est au-delà de tout ça, lui, dans sa grandeur, dans sa puissance. On peut lui faire confiance. Amen.
Amen.
L'autre point qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour témoigner, ça en est un point. L'autre point, c'est dans l'Église. On a besoin de voir l'Église manifester les dons spirituels. Une Église sans que le Saint-Esprit soit là en train d'agir, ça fait comme l'Église qui, dans l'Apocalypse, que Jésus dit je suis dehors, il se tient à la porte, puis il frappe. Il frappe à la porte de son Église, il aimerait rentrer puis devenir le centre de cette Église-là. Quand que Jésus n'est même plus le centre de l'Église, là, il se pose un gros problème, là. Jésus n'est plus le centre de cette Église-là. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut Seigneur devient le centre de notre Église. On veut que le Saint-Esprit prenne toute la place puis il se manifeste. On a besoin de voir la puissance de Dieu. Paul, à un moment donné, il dit dans Romains 1, 11, il dit, car je désire vous voir. Il parle là aux Romains, puis il dit, je vais aller faire un tour pour aller voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Paul, là, quand il imposait les mains sur quelqu'un, là, la personne recevait des dons. C'est extraordinaire. Non seulement qu'il en manifestait, mais il pouvait prier pour les autres, puis les autres en recevaient. Et je vais aller voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Tu veux devenir ferme dans le Seigneur, tu veux devenir fort dans le Seigneur, tu as besoin des dons pour t'affermir, pour devenir fort. C'est pas juste des théories que tu as besoin. Les théories, on a besoin. Mais la prédication, Paul, il disait que ma prédication repose pas sur des discours de sagesse, mais une démonstration d'esprit, de puissance, afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu et non pas ses raisonnements des hommes. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On a besoin aussi de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'Église pour voir des miracles, des signes, des prodiges, pour nous affirmer, qu'on devienne plus fort dans le Seigneur. Puis en même temps, l'autre verset dit, « Afin que nous soyons tous encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. » La foi nous ouvre des portes à la manifestation des dons. Puis là, on va pouvoir se réjouir ensemble de voir les dons se manifester parce que notre foi commune, bien, c'est ça qui est le centre pourquoi qu'on est ici aujourd'hui, c'est à cause de notre foi qu'on est ici. Puis tant qu'à être ici, tout se met de la vivre au bout de notre foi, qu'on voit la puissance de Dieu en train d'agir, puis qu'on soit sorti d'ici. Gloire à Dieu, on est rempli, on a été délivré, on a vu Des fois, c'est humiliant d'avouer qu'on a été délivré de quelque chose quand t'es chrétien, ça fait 25 ans, t'es chrétien, puis t'as encore des choses que tu vis, que le Seigneur t'a fait une délivrance dans ta vie. C'est humiliant de le dire, mais il faut aussi se dire qu'on n'est pas rendu parfait dans l'Église. Même valeur à dire, j'ai encore des choses à changer dans ma vie, vous en avez tous. Puis si on entend une parole de Dieu qui nous délivre de quelque chose, mais gloire à Dieu qu'on sorte d'ici affermi, fortifié, que Dieu a encore agi. Il n'y a pas de gloire qui revient à aucun homme, si la gloire revient toute à Dieu seul. 1 Corinthiens 12 nous dit que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers de chacun, ça dit à chacun. Pas juste au pasteur, pas juste au diacre, pas juste au musicien, à chacun, pour l'utilité commune. On est une commune, veut pas, on est un seul corps. J'ai déjà prêché antérieurement sur l'unité qu'on devait avoir, l'unité de l'Esprit. On est tous joints par l'Esprit, les uns vers les autres. Mais le Saint-Esprit, en plus de nous joindre, il veut aussi se manifester à travers de moi pour rencontrer besoin des autres, puis il veut aussi utiliser l'autre pour rencontrer mes besoins. Il faut que je sois capable de donner comme il faut que je sois capable de recevoir ce qui vient de l'Esprit. Si je ne crois pas que le Saint-Esprit peut parler à travers de la bouche d'un de mes frères et sœurs, j'ai un problème. Puis ce problème-là, ça peut être de l'orgueil. Puis là, on n'accepte pas quand un frère nous dit quelque chose, parce qu'on dit, moi, voyons donc si je vais recevoir une parole de cette personne-là. Hein? Tu sais, on peut mépriser les frères et sœurs, puis on n'ose plus écouter ce que l'autre a dit. Puis pourtant, c'était peut-être une parole de l'Esprit-Saint pour mon utilité, puis que je refuse de l'écouter, puis j'empêche le Saint-Esprit de changer ma vie. Puis il faut être capable, comme Jésus a dit à ses disciples, « Lavez-vous les pieds les uns les autres. Quand tu es arrivé à Jésus, tu as été lavé. » Mais après ça, celui qui est lavé a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Pourquoi? Parce que dans notre marche de tous les jours, on se salit les pieds. Tout le monde se salit les pieds. On a tous les pieds sales. On a besoin de se laver les pieds les uns les autres. Autant qu'on faut être disponible pour laver celle des autres, si on a une parole qui vient de Dieu, il faut être capable d'aller l'exprimer en toute humilité, puis dire, mon frère, ma sœur, le Seigneur m'a montré telle affaire, puis je pense que ça va t'aider. Puis autant le contraire d'accepter qu'un autre vienne nous le dire. Puis là, si on l'accepte, la sanctification, la purification dans l'Église va se faire, puis on va être dégagé de plein d'affaires que le diable nous met pour nous empêcher de courir dans l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 14, il dit, « De même que vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Parce qu'il y a un petit quelque chose, faut comprendre, les dons, c'est pas pour t'élever sur un piédestal dans l'Église. C'est pas à cause que t'aspires un don puis que le Seigneur te le donne, que là, c'est pour t'élever au-dessus des autres, que tu te penses supérieur aux autres. Il dit, quand tu cherches à posséder des dons, quand tu cherches que le Saint-Esprit se manifeste à travers toi pour rencontrer besoin des autres, faut que tu cherches dans le but que ce soit pour l'édification, pour encourager les autres, pas pour te penser supérieur. Faut que ce soit dans le but que les autres sortent, puis qu'ils soient encouragés, fortifiés, puis sortent rencontrés. Puis il dit, quand vous les aspirez, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder, abondamment. Il n'a pas dit, vous avez juste un don à aspirer, à rechercher. Recherchez à en avoir plein de dons dans votre vie. Puis le Saint-Esprit, si vous cherchez ça dans le but que les autres soient édifiés dans l'Église, il va le faire à travers de vous. Il y en a au moins un que vous avez reçu, mais il y en a bien plus qu'un. Il y en a plein de dons. J'en ai donné une liste tantôt, mais ça, c'est des gros en ligne. C'est en gros qu'on voit ces titres-là, là. Mais des manières que le Saint-Esprit veut se manifester, il y en a plein qui ne sont pas écrits dans ces textes-là. Toutes les formes. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce qu'il faut faire le point dans notre vie. La même chose que Paul a parlé dans Actes 19, 1, 2. Paul a parlé à des gens qui étaient des disciples. Il nous a posé la question. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Bonne question. Puis il faut se la poser, la question, « Je l'ai-tu reçu, le Saint-Esprit, quand j'ai cru? » Tu peux être assis là pendant 20 ans, puis tu ne l'as pas encore su. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'es même pas encore né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux être religieux. Être assis dans une église, puis aller comme aller à la messe à tous les dimanches, puis pas avoir reçu le Saint-Esprit, tu n'es même pas encore entré dans le royaume de Dieu. Puis tu peux même pas le voir, tu es là comme pour pulsation religieuse, par devoir. Je vais à l'église par devoir. La première question que Paul a posée à ces gens-là, l'avez-vous reçu quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Aïe aïe! Là, le Paul, il se pose des questions. De quel baptême vous avez été baptisé? Du baptême de Jean. Ah! Mais Jean était là pour nous conduire à Jésus. Parce que toutes les promesses se reçoivent par Jésus. Puis là, il convenait de comprendre pourquoi il a apporté le Saint-Esprit. Parce que les autres baptêmes administrés en dehors que par Jésus, par ses disciples, les baptêmes qui t'amènent à mettre ta foi en Jésus seul pour ton salut, c'était pas révélé encore ça aux premiers disciples. C'était comme, on commence à comprendre, mais il n'y a pas encore vraiment fait le lien, puis saisi qu'il y avait le Saint-Esprit à recevoir. Puis là, tu pouvais entrer à cause de ta foi en Jésus. Il a compris ça, fait que là, il a dit, attendez, Jean, il était là pour vous amener à Jésus. Maintenant, j'annonce que par Jésus, vous pouvez le recevoir. Ils sont refaits baptisés d'eau pour se réengager avec le baptême qui vient de l'Église du Seigneur. Puis là, ils ont imposé les mains, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Bonne question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Posez-vous-la. Tu peux être assis dans l'Église, puis jamais avoir vécu rien. Tu peux même avoir entendu le Saint-Esprit dans ta vie qui t'appelait, mettons, pour te convaincre que t'es pécheur, puis là, il voulait que tu obéisses, que tu avances dans son chemin, que tu as compris certaines paroles qu'il te dit, puis pas encore être sauvé, parce que tant que tu y donnes pas la... Tant que tu passes pas par Jésus pour recevoir le pardon, en te repentant, puis après ça, demander que le Saint-Esprit vienne en toi, tu l'as pas encore reçu. Il peut agir sur toi, te guérir même. Il y a des gens, là, non-chrétiens, ils sont fait imposer les mains. Mettons les 10 lépreux. Jésus est à côté d'eux autres. Les 10. Ils ont tous reçu une guérison. Il n'y en a qu'un, ces 10 qui revenaient à Jésus. Tu peux avoir été guéri dans ta vie par Jésus, par l'imposition des mains, puis pas encore être sauvé. Faut-tu comprendre qu'à quelque part, il y a un engagement, faut-tu faire. Repends-toi et sois baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, puis là, tu recevras le Saint-Esprit. La question importante, c'est « Suis-je né de nouveau? » Ça, c'est la première de base. Ensuite, l'autre question, la deuxième question qu'on doit se poser, « Ai-je été baptisé du Saint-Esprit comme à la Pentecôte? » Parce que les disciples, là, Pierre, les 12 apôtres, là, mais tous ceux qui étaient là, étaient tous des gens sauvés déjà. Ils étaient tous des gens dans le royaume de Dieu, puis le Père leur parla, puis il marcha par l'Esprit pour chasser les démons, puis ainsi de suite. Mais ils ont quand même reçu autre chose. Un revêtement de puissance avec des signes. Quand ils l'ont reçu, ils ont commencé à parler en langue, tu peux prophétiser. La puissance de Dieu te revêt. Puis Jésus leur a dit, partez pas de Jérusalem avant de l'avoir reçu, ce revêtement de puissance-là. On peut se poser la question, j'ai-tu déjà été baptisé du Saint-Esprit? Si vous avez été né de l'Esprit, puis vous l'avez déjà reçu, vous êtes sauvé. Tu peux t'avoir repenti et avoir reçu l'Esprit, t'es né de nouveau, le Seigneur a commencé à agir dans ta vie, mais t'es pas encore revêtu. C'est une deuxième expérience que tu peux vivre, qui est biblique, parce que ça s'adressait à des gens sauvés, là. Il y a des gens sauvés, mais il a besoin d'être revêtu de la puissance. Jésus s'en allait, il fallait qu'il marche avec une puissance qui vient du Saint-Esprit sur eux. Fait que tu peux vivre toute ta vie. Moi, je vais vous dire franchement, je me suis converti, là, puis c'est 5 ans ou 6 ans après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vécu des choses avec le Seigneur, en marchant avec, puis à un moment donné, parce que je ne savais pas que ça existait, d'être baptisé du Saint-Esprit, puis les dons des langues, puis tout ça, il a fallu que j'entende prêcher là-dessus. Puis là, je me posais la question, parce que j'entendais des églises prêcher le contraire, dire, « Ah, oh, ça, c'est le diable, puis c'est des démons qui font ça. » Là, tu sais, quand tu viens de certains groupements d'églises qui ne croient pas à ça, puis qui ne prêchent pas là-dessus, puis quand ils en parlent, c'est trop pour en parler négativement. Fait que les brebis, ils n'osent pas le chercher. Moi, ce que j'ai fait devant Dieu, il dit, Seigneur, je veux bien croire que c'est là, que ça existe, là, mais je veux que tu me le montres dans la Bible. Je veux que le voir, que c'est biblique, je veux comprendre, puis une fois que j'ai que là, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Je lisais un passage dans le Nouveau Testament. Puissance de Dieu, baptême du Saint-Esprit, parlant en langue, des miracles. Mais plus que t'as lu en demandant au Seigneur de te changer, ben si t'as lu avec des lunettes, mettons des lunettes en verre, tu vois tous les passages en verre. Si tu lis avec des lunettes roses, tu vois tous des passages en rose. Fait que si tu lis la Bible avec des idées préconçues en disant ça n'existe pas, à chaque fois que tu lis la Bible, tu vois ces passages-là, mais tu les vois pas parce que tu as tes lunettes devant tes yeux. Tes faux raisonnements t'empêchent de voir que ça fait partie des promesses de la Bible. Puis quand tu enlèves tes lunettes puis tu dis « Seigneur, je veux voir ce qu'il y a là avec tes yeux à toi, ta couleur à toi », là tu t'aperçois, tu te laisses parler, « Ah oui, c'est là ». Là, le monde apprend quand ils viennent, « Oh, c'est pas de Dieu ». C'est drôle, on dit, on lit pas la même Bible, parce que moi, j'en vois plein de passages que c'est écrit qu'il y a une puissance qu'on peut recevoir, puis il y a des dons qu'on peut recevoir. Puis il faut être capable de prendre notre place, puis de dire, ça fait partie des promesses que Dieu a données à chacun de ses serviteurs et ses servantes. Puis on va arrêter que le diable nous vole nos promesses. Puis des fois, il sert même de des frères et sœurs pour nous mettre des doutes. Faut racheter ces paroles-là. C'est-tu écrit? C'est écrit, c'est pour moi. C'est une promesse. Fait que, on t'a rendu où avec tout ça? La troisième question, tu peux l'avoir été reçu à ta conversion, le Saint-Esprit. Tu peux avoir déjà été baptisé du Saint-Esprit, puis être 10 ans après refroidi face à la recherche, puis à l'aspiration, puis à vouloir voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu peux te refroidir aussi. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent faire qu'on se refroidit, qu'on a négligé, on a vécu des épreuves, qu'il y a du monde qui nous a essayé de nous convaincre autrement, puis là, on s'accroche plus aux promesses. Puis là, la question qu'il faut se poser, qu'en est-il de ma flamme, de mon désir, de mon feu, de mon vouloir à ce que l'Esprit se manifeste à travers de ma vie? J'ai-tu laissé éteindre ça? Me suis laissé voler une promesse? Après l'avoir vécu, tu peux te refroidir puis plus le vivre. Puis si je veux pas nécessairement parler là-dessus, mais ça m'est déjà arrivé. J'en ai vécu plein des signes de puissance de Dieu, mais ça m'est déjà arrivé de me refroidir. Puis qu'il a fallu que tu prennes conscience, « Wow, là, je marche plus là-dedans. Là. » Puis là, commencer à demander pardon au Seigneur, puis demander au Seigneur de renouveler pour que notre flamme revienne, puis qu'on ait encore le goût de vivre des choses extraordinaires. Paul, là, dans sa lettre à Timothée, la seule qui dit, là, « Prends garde au dépôt, là. » Dans un des versets, 2 Timothée 1,6, il dit à Timothée, là, Paul, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Dans sa vie, Timothée, c'était un assistant de Paul. Il était placé dans une église, puis il prêchait la parole de Dieu, puis il s'était refroidi. C'est pour ça que quand tu remets tout ça en place, là, puis il l'exhorte à faire attention au dépôt qu'il avait reçu. Puis là, dans ce passage-là, il parle de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul avait déjà prié pour lui. Les dons ont été transmis. Timothée a commencé à manifester des dons. Puis à un moment donné, dans sa vie chrétienne, il s'est refroidi. Vivre dans les dons, là, c'est de marcher dans la puissance de Dieu. Les dons, c'est la puissance de Dieu en action. T'entends une inspiration prophétique, puis ton cœur est changé en l'entendant, puis ça te fortifie, ça te bénit. Mais cette révélation-là, c'est la puissance de Dieu à travers d'une parole inspirée à quelqu'un. La parole dit, le frère ou la sœur dit la parole, puis la personne qui l'entend, en le recevant, la puissance de Dieu agit, puis la personne, des fois, est délivrée, la personne est guérie, la personne est transformée par la parole. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. La même chose dans une prédication. Il y a plein de messages qui sont annoncés dans les messages quand les serviteurs de Dieu prêchent la parole le dimanche, puis vous recevez, puis vous écoutez. Puis là, les faux raisonnements, ils partent. Puis là, des nouvelles pensées bibliques s'installent. Puis il y a des guérisons intérieures, des renouvellements dans notre intelligence. La puissance de Dieu nous libère, nous guérit, nous transforme, nous rend de plus en plus à l'image de Jésus. Les chrétiens ont besoin de voir la puissance de Dieu. Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et 1 Corinthiens 4, 20, le royaume de Dieu consiste pas en parole, mais en puissance. Pour entrer dans cette dimension-là, aller un peu plus loin, je dis pas qu'il faut aller en dehors de la parole. Non, j'ai pas ça, j'ai dit. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi la puissance de Dieu. C'est les deux. Pas, ben j'ai déjà entendu quelqu'un prêcher, « Ah, si j'avais le choix entre la sanctification ou la puissance de Dieu, cherchez la sanctification. » Moi, j'étais allé, « Ouais, ce pasteur-là. » J'ai dit, « Non, c'est pas de même que ça marche. Cherche la puissance et la sanctification. Cherche pas un ou l'autre. Cherche la puissance pour arriver à la sanctification. Tu peux pas arriver dans une sanctification sans que la puissance de Dieu agisse pour te libérer, tu n'y arriveras pas par toi-même. Tu as besoin de toutes les armes de Dieu, tout ce qui fait partie des armes, puis des moyens, puis des activités que Dieu veut faire pour t'arriver à ta sanctification. Éphésiens 6, ça nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On doit devenir fort dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, c'est sa force toute puissante qui va faire qu'on devient fort dans le Seigneur. Si on pense y arriver sans ça, là il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir contre les ruses du diable. On en combat contre la chair, on en combat contre notre propre chair, contre le monde, puis contre le diable, puis on a besoin de toute la puissance de Dieu. C'est pas contre la chair et le sang qu'on bat, c'est contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est ça que ça dit dans le texte. Tous doivent rechercher des dons. Dans 1 Corinthiens 12, 31, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Y a-t-il d'autre chose de plus grand que notre vase de terre soit rempli de la puissance de Dieu? Il n'y a rien de plus grand que ça. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Ça en est un autre passage que j'ai déjà entendu, une prédication qui disait, « Oh, les dons, faut pas rechercher ça, faut rechercher l'amour. » C'est vrai que l'amour, c'est la première chose qu'on doit rechercher. Mais ça dit dans ce texte, recherchez l'amour, la charité, mais aspirez aussi. C'est pas un contre l'autre, c'est un et l'autre faut que tu recherches. On recherche l'amour pour qu'on soit bien soudés ensemble, on recherche aussi à aspirer à avoir plein de dons dans l'Église. Le mot aspirer, là, qu'on voit aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout, le mot aspirer, là, dans le grec, là, les différents sens, là, c'est brûler avec ardeur. Ça veut dire, tu as une activité, une ardeur en dedans de toi qui te pousse à vouloir vivre ces dons-là. Tu brûles avec une ardeur de dire, Seigneur, je veux vivre ces dons-là dans ton Église. Je veux que ça se manifeste à travers moi. Je me rends disponible. Je vais change-moi, transforme-moi, enlève ce qui m'empêche de croire et de vivre tout ça. Viens le faire à travers de... Brûler quart d'heure, bouillir avec envie, puis même, il dit, ça pousse jusqu'à la haine et la colère. Vouloir là, au max, l'aspirer, c'est pas juste j'aspire. Il y a différentes forces d'aspiration, comme un aspirateur, là, des fois l'aspirateur, le filtre est bloqué, là, tu as de la misère à ramasser une poussière à terre, ça aspire pas fort. Mais quand tu en as un aspirateur qui respire avec ardeur, le tapis passe dans l'aspirateur. Mais c'est ça qu'on a besoin d'être pour aspirer aux dons les meilleurs, il faut aspirer la puissance de Dieu comme ça. Il faut les vouloir, si on veut rien, il ne se passera rien. Dans un autre sens, c'est être ardent dans la poursuite. Désirer sincèrement, poursuivre, s'efforcer de, s'occuper sérieusement de, s'efforcer de faire quelque chose, quelqu'un, c'est un effort. Il faut que tu pousses pour le vouloir.
Donc, c'est
avec,
donné.
Hein?
C'est donné.
Ça va être donné, mais il faut que tu recherches comme
donc,
ça.
Tu dois donner pour...
Oui, c'est un effort à faire de chercher, d'aspirer, de prier, de le demander, faire attention à ta vie, de la tenir en règle avec Dieu en demandant pardon, et ainsi de suite. Puis t'en deviens même être un objet d'ardeur pour les autres, parce que ton exemple d'aspirer de voir la puissance de Dieu va motiver les autres pognent le feu eux aussi, puis la notre flamme collective va se rallumer, puis on va vouloir, chaque semaine, on va avoir hâte de rentrer dans l'Église, puis de voir la main de Dieu agir dans l'Église. Ça va être extraordinaire. Entretenons-nous dans la présence du Saint-Esprit afin d'être remplis, puis de goûter ses dons. Éphésiens 5, 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. » C'est quelque chose qu'on doit rechercher. Puis un autre passage en Colossiens, j'achève, je pense que c'est le dernier, oui, c'est le dernier. Paul, là, il priait pour les serviteurs de Dieu, là, il priait pour les églises. Il dit « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour qu'on avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Lui, Paul, là, il était pris avec une idée, je prie. Là, il pria pour les frères et sœurs. Chaque jour, prière, puis il ne cesse de prier chaque jour, puis demander que tous ces gens-là soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne du Seigneur, puis être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes, puis de croître, que l'Église croît par la connaissance de Dieu. Puis il pria aussi pour qu'il soit fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. C'était le sujet de sa prière. Il pria pour l'église de... Ça, c'est Corinthiens, j'ai dit? Colossiens. Il dit à l'église de Colossiens, « Je prie tous les jours pour que vous soyez aussi fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. » En sorte qu'il est toujours et avec joie, persévérant et patient. On veut-tu vivre la joie du Seigneur? La joie du Seigneur va être notre force. Plus qu'on va aspirer, plus qu'on va désirer, plus qu'on va vouloir rechercher à l'avoir, à vouloir que ça se manifeste dans nos vies, puis le désirer à quart d'heure. Est-ce que le Seigneur, son bras est trop faible pour agir, pour nous le donner? Il dit à nous autres, si vous êtes capables, méchants comme vous êtes, de donner du pain à ton enfant qui te demande du pain. On est tous des méchants, mais on arrive à donner du pain à notre enfant. Il dit, à combien de fortes raisons le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il faut croire qu'il est déjà disposé, Dieu, à nous, une effusion puissante, une manifestation des signes. Puis même, il nous l'avait promis que dans les derniers temps, ça sera là, par Joël. Puis il y en a plein depuis le début de la création qui l'ont vécu. Puis nous autres, si on l'a vécu, c'est encore là disponible aujourd'hui. Voulez-vous être rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, et de manifester tous les dons qui sont dans la Bible? Vous le voulez-vous? Mais notre frère va venir jouer de la musique, puis on fait un appel ce matin. Avancez-vous en avant, clairement, va prier pour vous, individuellement. Aspirez-les. Je sais que vous pensez à votre dingue qui est au four. Laissez-la là, la dingue. C'est bien plus important, la puissance de Dieu, la manifestation des dons. Amen. Pensez plus à ce qui se passe autour. Tant qu'être dans la présence de Dieu, parce qu'on l'est présentement, puis Dieu est présent, avancez-vous en avant. Pour recevoir des prières, parce que des fois, on a besoin d'être restarté. Paul, il avait reçu ça par l'imposition des mains. Timothée avait reçu ça par l'imposition des mains de Paul. Puis, on a besoin des fois d'être restarté dans notre vision. Je ne dois pas enterrer le dépôt. Je dois prendre tout ce qui est là, puis demander au Seigneur, je le veux. Le voulez-vous? Recevoir la puissance, si vous ne l'avez jamais reçu. Et si vous l'avez déjà reçu, venez lui demander de vous revêtir, de vous renouveler, que ça puisse se réactiver, puis que vous soyez encore dans une passion à vouloir manifester la présence et la puissance de Dieu.